Sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komanicki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écouter, alors à pleine bouche. J'ai puisé. J'ai tourné ma langue cette fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Fournaise, flambée des prix, embrasement des cités, méga feu, prêt, feu, partez. Feu sur le monde, c'est l'incendie, le grand écobuage à échelle mondiale.
Les flammes dévorent les forêts. Le Canada apparaît dépassé par l'ampleur des incendies qui embrasent le pays, des brasiers gigantesques et nombreux. Le réchauffement climatique favorise la multiplication des incendies extrêmes, même là où on ne s'y attend pas. En Sibérie, dès le mois dernier, d'importants feux de forêt ont tout consumé sur leur passage. La région connaît actuellement une vague de chaleur sans précédent, 40 degrés au lieu de 20.
Ça y est, le grand incendie, y a le feu partout, emergency Babylone. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas, dans le show, hommage à l'art pompier. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y.
Thank you. s'est arrêté de jeter dans un coin du cocher, oublier la cadence. C'est l'incendie, le grand incendie, l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie, c'est l'incendie, le grand incendie.
Depuis cet été, la Grèce, berceau de notre civilisation occidentale, est dévastée par le feu et par les pluies diluviennes. Et Prométhée se ronge le foie. La culpabilité jouant de ricochet à la surface de sa bonne conscience. Prométhée, c'est celui qui prévoit, celui qui réfléchit aux conséquences de ses actes. Prométhée, c'est celui qui vola le feu aux dieux, pour venir l'offrir aux hommes.
Sur la terre, à ce moment-là, tout était beau, tout était bien, tout était bon. Des arbres coulaient le miel. Il y avait des sources d'amandes douces, il y avait des sources d'eau de jouvence. Enfin, les Grecs appelaient ce moment-là l'âge d'or. Les bêtes étaient toutes bonnes entre elles. Bien sûr, parfois, elles se dévoraient, parce qu'il faut bien se nourrir, mais jamais dans la cruauté. La cruauté n'existait pas. Les calamités n'existaient pas. Un jour de printemps, Prométhée, fils de Titan, était sur cette terre et l'admirait. Il était au bord d'une rivière et il trouvait que tout était beau, tout était bon, mais il s'ennuyait. Comme il s'ennuyait, il a pris un peu d'argile grise qui était sur le bord de la rivière et il s'est mis à modeler. Comme il se voyait dans le reflet de l'eau de la rivière, eh bien il a modelé à son image, de la tête aux pieds. Il fit ainsi une sorte de statue qui lui ressemblait. Une statue d'argile grise qu'il a placée à côté de lui, dans l'herbe. Et comme il continuait de s'ennuyer, il a repris un peu d'argile et l'a recommencé. Et encore. Et encore, puis il était content de ce qu'il faisait. Elles étaient belles, ces statues-là. D'ailleurs, quand Athéna, sa cousine, est passée par là, elle les a admirées. Elle s'en est approchée. Et même, elle a posé sa main sur le visage de chacune de ces statues. Instantanément, l'argile a perdu sa couleur pour prendre celle de la peau. Alors, Athéna a passé sa main sur la poitrine de chacune de ces statues. Et là, dans un silence primordial, on a pu entendre autant de cœurs se mettre à battre que de statues. Les poitrines se sont soulevées et toutes les statues qui n'étaient plus statues du tout se sont levés. Prométhée, aidé du souffle d'Athéna, venait de créer les premiers hommes. Prométhée était tellement content qu'il a repris de l'argile grise et qu'il en a fait, refait, refait encore. Pendant des jours et des jours, il y en avait centaines et milliers. Et Athéna leur donnait le souffle. Puis, Prométhée n'avait pas envie de s'arrêter là. Alors, il leur a tout donné à ceux qu'il avait créés. Il leur a donné le feu pour cuire et puis pour forger. Il leur a appris, tout appris. Il leur a appris à cultiver la terre, à garder leurs troupeaux. Il leur a appris à forger des outils pour fabriquer, pour chasser. Il leur a appris la musique, il leur a appris à mettre des signes à côté d'autres signes, il leur a appris l'écriture, Prométhée, et puis la science des nombres, il leur a tout appris. Les hommes savaient tant et tant de choses qu'un jour, Zeus a dit « Maintenant, ça suffit ». Il avait peur, Zeus, que les hommes en sachent trop. Alors, il a fait venir Prométhée, il lui a expliqué qu'il fallait maintenant apprendre aux hommes à s'occuper des dieux. À faire des offrandes aux dieux, des sacrifices. Prométhée savait bien ce que cela signifiait. Prométhée a tout organisé. Il est allé chercher un taureau et il l'a égorgé, parce que pour faire un sacrifice, il fallait égorger un taureau. Et puis, il a dépecé la bête, parce que pour faire un sacrifice, il fallait la dépecer. Et puis, il l'a partagée en deux parts. Une dans laquelle il y avait la chair, les entrailles couvertes de la peau. Et l'autre dans laquelle il y avait les os et la graisse. C'était la part la plus grosse et la plus brillante. Et Prométhée, le prévoyant, a demandé à Zeus lui-même de choisir quelle part les hommes devaient offrir aux dieux, une fois pour toutes, et quelle part ils pouvaient garder pour eux. Les Grecs racontaient que Zeus aurait hésité, Zeus aurait été gourmand, il a choisi la part la plus grosse et la plus brillante. Et très vite, il s'est aperçu qu'il avait fait le mauvais choix. Car c'était la part la plus insipide. Les hommes allaient garder le meilleur. Alors là, vexé, il s'est vengé. Il leur a repris le feu. Dorénavant, ce meilleur-là, il le mangerait cru. Quand Prométhée a vu cela, il a tout de suite compris que les hommes allaient être privés de tout. Que l'hiver suivant, ils allaient mourir de froid, de faim, de ne plus pouvoir chasser. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi, au printemps suivant, il a osé voler le feu à Zeus. Une toute petite braise, un brandon, qu'il a glissé dans une férule creuse et qu'il a posé sur le sol au milieu des hommes. Les hommes l'ont trouvé, ils ont mis quelques brindilles dessus, ils ont soufflé et ils ont retrouvé un feu qu'ils ont partagé en deux et puis les deux encore en deux. Enfin, ils ont retrouvé le feu sur toute la terre. Ils étaient contents, les hommes. Il fallait remercier les dieux. C'était sûrement les dieux qui leur avaient redonné. Alors, ils sont allés chercher un taureau et ils l'ont égorgé. Ils l'ont dépecé. Ils en ont fait deux parts. Ils ont mis de côté la chair, les entrailles et la peau. Et puis, ils ont fait offrande aux dieux. Et la fumée fade est montée jusqu'aux narines de Zeus. Seulement quand Zeus a senti cette fumée-là, Zeus savait très bien qu'il n'y avait pas de fumée sans feu, et là, il a tout de suite compris que les hommes avaient retrouvé le feu, donc que Prométhée lui avait volé. Zeus est entré dans une colère terrible, et il a puni. Il a appelé son fils, le grand forgeron, Héphaïstos, et l'a mis au travail. Il lui a demandé de forger une chaîne, une lourde chaîne en or. Et il a envoyé Prométhée en haut du mont Caucase. On l'a mis nu et on l'a attaché au rocher avec cette chaîne. Puis Zeus a demandé au divin boiteux de lui forger un aigle d'airain avec des serres et un bec d'acier. Il a donné la vie et ordre à l'aigle. C'était un matin. Le soleil venait de se lever. Prométhée était nu, attaché au rocher par les mains et par les pieds, et l'aigle est arrivé. Et de son bec d'acier, il a déchiré la peau du ventre de Prométhée et il a commencé à lui manger le foie. Petit morceau par petit morceau. L'aigle savourait, dégustait, prenait tout son temps. Pendant toute la journée, il a mangé le foie à l'aigle. Et quand le soleil s'est couché, il s'est envolé. Le ventre de Prométhée était béant. Prométhée a soupiré en pensant que peut-être il allait cesser de souffrir, peut-être mourir, mais c'était bien mal connaître la colère de Zeus. Parce que la nuit suivante, le foie de Prométhée s'est reconstitué. Et puis le lendemain matin, l'aigle est revenu. Et puis il a déchiré, déchiqueté, dévoré pendant toute la journée. Et la nuit suivante, le foie s'est refait. Et ainsi de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui, si, entre-temps, Héraclès n'était passé par là et n'avait délivré Prométhée.
Prométhée avait offert le feu aux humains pour les soulager de leurs peines. Mais ils n'ont cessé de s'exploiter les uns les autres et d'exploiter la terre. Cet été, le philosophe et essayiste allemand Peter Sloterdijk a publié un petit essai intitulé « Le remords de Prométhée, du don du feu à la destruction mondiale par le feu ». Depuis toujours, nous devons organiser notre métabolisme avec la nature. Pour Marx, ça passe par le travail. Et depuis des centaines de milliers d'années, ça passe aussi par le feu, qui sert à cuire les aliments, à durcir les outils. En ce sens, l'histoire de l'humanité est celle des diverses utilisations du feu. Mais là où, en surface, les arbres ne pouvaient brûler qu'une seule fois, la découverte de gisements de charbon et de pétrole a bouleversé l'impact du travail et du feu. Je prête ma voix à quelques extraits de cet essai. Avec l'entrée dans l'ère industrielle, le souvenir culturel de Prométhée a été réactualisé. Ce n'est pas sans raison qu'on a pu caractériser la modernité dans son ensemble comme une ère de dédivination marquée par le retour des titans. J'entends par là des gigantesques quantités d'énergie dotées de forces subdivines qui étaient familières à la mythologie grecque. De Goethe à Trotsky, on a cessé d'invoquer Prométhée comme le protecteur des projets d'autocréation humaine à tendance programmatique. Dans le mythe, le titan payait son acte anthropophile par une punition infligée par Zeus, le maître des dieux. Il est attaché à un rocher du Caucase où un vautour lui inflige des tortures quotidiennes. Le titan prévoyait cependant le jour de sa libération, celui où, à un moment ou à un autre, le règne de Zeus toucherait à sa fin. Dans une vision moderne, on pourrait établir une relation entre la fin de l'ère de Zeus et l'issue de l'ère mondiale des pénuries. Quand le titan Prométhée descend du rocher où il était crucifié, il ne peut observer l'état transformé du monde qu'avec le plus grand étonnement. Il découvre une humanité qui ne ressemble pratiquement plus en rien à celle qu'il avait voulu secourir en lui apportant le feu. La vieille terre austère est désormais recouverte de feux innombrables qui brûlent dans des millions d'âtres. De nouveaux feux étranges et nocifs sortent en tonnant de fûts de canons. Des explosions de la nature la plus inconnue résonnent dans les montagnes. Vers 1888, un philosophe encore peu connu proclame « Je ne suis pas homme, je suis de la dynamite ». Cette phrase du jeune Nietzsche rappelait qu'à côté du feu de premier rang avait été mis au monde un nouveau feu, celui des explosifs. Avec lui, on ne déplaçait pas les montagnes, on les transperçait.
Ce soir,
on vous met le feu.
Alors ce soir, qu'est-ce qui va se passer, les gars?
C'est le philosophe austro-allemand Günther Anders qui a proposé de considérer si, pour l'ancien titan qu'était Prométhée, Une deuxième phase de sa condition n'avait pas commencé après qu'il eut apporté le feu aux hommes. Prométhée est tout à coup contraint de comprendre qu'il a des raisons d'avoir honte. Avec la modernité avancée commence ce qu'Anders appelle l'ère de la honte prométhéenne. Le titan philanthropique n'a pas voulu ce que les hommes ont fait du cadeau de feu. Il n'avait pas prévu que le feu, qu'il avait rapporté du char solaire sur la terre dans la tige creuse d'un fenouil géant, allait se transformer en un gigantesque incendie qui consumerait le monde dans un nombre incalculable de foyers. Aucun titan, aucun dieu de l'Olympe n'aurait pu deviner que l'homme, en quittant son état d'assisté, parviendrait à révolutionner le monde en entreprenant des feux de forêt à partir des profondeurs préhistoriques. Prométhée lui-même, aussi fièrement qu'il ait jadis résisté au diktat de la mesure émise par le Dieu Père, ne pouvait pas savoir, bien que son nom signifie celui qui sait à l'avance, jusqu'où iraient les déchaînements pyromaniaques, métallurgiques et chimiques du genre humain auquel il avait accordé sa faveur. Prométhée a honte, et à juste titre. Le don du feu s'est révélé être un cadeau fatal dont l'intensification autonome devient imprévisible. Le donateur ne peut plus se sentir compris. Au contraire, il se voit démasqué par ce que les récipiendaires ont fait de son don. Même un titan doit apprendre que le don s'apprend. Le don naïf débouche sur le remords dès qu'il connaît, une fois parvenu entre les mains du destinataire, un enflement démesuré. L'ingratitude du gratifié se fait valoir sous forme d'une puissance mondiale d'une nature spécifique. Ce qui était conçu comme un moyen contre le désarroi et l'impuissance se développe pour devenir une force du mal sans aucune commune mesure avec les inconvénients auxquels il fallait remédier à l'origine. Les hommes, dotés du pouvoir pyrotechnique, jettent d'assez grandes quantités de combustible dans le feu, d'abord considéré comme une masse illétique, matière première, échappés ensemble de leurs âtres ouverts, de leurs moteurs, de leurs hauts fourneaux, de leurs forages, de leurs centrales électriques, de leurs cheminées, de leurs lieux d'accident en flammes, se regroupent des nuages de fumée qui sont tout, sauf de bon augure. Les nuages se condensent au point de remettre en question l'existence du monde dans son ensemble, tel que l'ont connu jusqu'alors les dieux et les hommes.
Les chiens se sont tus, la lune s'est levée, elle était rouge et nue, sur mon cœur arrêté. Ah, le silence éclatait dans le sang répandu. Là, sous le ciel qui suait, ah, la chaleur torturée, la lumière qui tue, et ma vie revenue. Tous les chiens se taisaient, parfois les fleurs s'égorgent. Je n'oublierai jamais. Le ciel est une forge. Ah, les oranges écrasées, les anges écartelés, et ma vie retrouvée. Ah, la chaleur étalée, 10 000 abeilles en feu, mon amour sur les yeux.
Pour cette émission, je suis allée puiser dans le très beau travail de la conteuse Claudie Aubin sur la mythologie grecque, porté par Pascal Dubois et ses indispensables éditions Oui Dire. Je vous invite également vivement à vous plonger dans le très fort petit essai de Peter Sloterdijk, Le remords de Prométhée, dont je n'ai pu vous livrer que d'infimes extraits. Toutes les références aux musiques et extraits se trouvent sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Pauline Lemaire Desmarais pour la réalisation. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radio-La.